vous.
Boomerang avec le lauréat du prix du livre inter, donc Jean-Baptiste Delamo, c'est parti. On pourrait parler bien sûr d'abstention et de raz-de-marée, de vote jaune, bleu, blanc, rouge, rose, délavé. Mais tant qu'à relire ces élections, on peut aussi faire un pas de côté et s'étonner par exemple d'avoir vu surgir sur la table de la mairie où étaient alignés tous les bulletins certains qui n'avaient eu jusqu'ici aucune voix et dont on ne parle ce matin absolument pas. La cause animale par exemple, à travers des partis dont deux lui étaient dédiés dans mon bureau de vote, ce qui est sinon inédit, du moins singulier. Et il faut mesurer le chemin parcouru depuis la toute première loi consacrée à la protection des animaux en 1850 sous la pression d'un certain Victor Hugo. Ce même Hugo qui écrivait aux chasseurs « Oui, l'homme est responsable et rendra compte un jour sur cette terre où l'ombre et l'aurore ont leur tour, soit l'intendant de Dieu, mais l'intendant honnête tremble de tout abus de pouvoir sur la bête. Te figures-tu donc être un tel but final que tu puisses sans peur devenir infernal, vorace, sensuel, voluptueux, féroce, échiner le baudet, exténuer la rosse, en lui crevant les yeux, engraisser l'ortolan et massacrer les bois 3 ou 4 fois l'an ? Ce même Victor Hugo qui terminait ce poème que l'on trouve dans le recueil de ses textes posthumes « Dieu qui fait les oiseaux ne fait pas le gibier ». Dieu qui fait les oiseaux ne fait pas le gibier. Dites animal au lieu d'oiseau et viande au lieu de gibier. C'est à méditer.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Qui d'autre que mon invité d'aujourd'hui pour parler de l'animal en nous. Dans son 4e roman qui s'intitule justement Règne animal, récompensé la semaine dernière par le prix du livre inter, il explore à travers l'épopée d'une famille d'agriculteurs ce lien si complexe, cette frontière poreuse, infime entre l'homme et l'animal. Une histoire de la violence portée par une langue organique, crue et aussi lumineuse que son propos est sombre. Bonjour Jean-Baptiste Delamo. Merci beaucoup d'être là. Que nous dit à votre avis, ne serait-ce que la présence de partis animalistes ou antispécistes aux élections législatives?
Je crois que c'est un des nombreux signes d'un changement profond de notre société et du regard de notre société sur les animaux qui nous engage à considérer les intérêts des animaux de façon égale. Donc c'est important, même si je crois le pourcentage du parti animaliste aux législatives était très faible. C'est en tout cas un signe des temps.
Qu'est-ce qui se joue de l'homme et de son humanité dans le traitement réservé aux animaux, pour vous ?
C'est une vaste question. Je crois que l'élevage, et en particulier l'élevage industriel, cette exploitation effrénée d'êtres vivants dont on sait aujourd'hui que ce sont des êtres sensibles, nous amène évidemment à nous questionner sur la façon dont nous cherchons systématiquement à dominer ce qui nous entoure et nous interroge aussi sur ce que nous sommes, sur notre humanité, sur nos valeurs.
Est-ce que c'est vraiment propre à notre époque, où l'élevage se fait effectivement à l'échelle industrielle, puisque la cruauté envers l'animal, elle est aussi présente chez les premiers paysans que vous décrivez et qui vivent au début du siècle?
Oui, je, dans ce livre-là, j'ai pas du tout cherché à idéaliser un élevage traditionnel. Alors certes, les éleveurs avaient beaucoup moins, les agriculteurs, c'était même pas des éleveurs à l'époque. Les fermes avaient quelques animaux qui étaient souvent maintenus dans des conditions préférables à celles de l'élevage intensif. Mais quand même, la finalité de cette relation-là, c'était la mise à mort de l'animal.
Et moi, je pense aussi à cette scène où Éléonore, celle qui va donner naissance à la lignée dont vous racontez l'histoire sur un siècle, torture un chat, l'étrangle. Pourtant, elle aime ce chat, comme si la cruauté était en somme quelque chose de naturel. C'est ça que vous dites, en fait.
Oui, alors en plus, elle est enfant quand elle fait ce geste-là. Et c'est vrai qu'il y a toujours un moment dans l'enfance où on prend conscience de la domination possible sur le plus faible et sur l'animal, souvent en premier, en fait, puisque c'est l'animal qui est à la merci de l'enfant. Et donc à cet instant-là, elle réalise cette puissance dont elle dispose et qui préfigure finalement cette violence systématique infligée aux animaux par toute sa descendance dans le cadre de l'élevage.
Il y a une semaine, vous avez reçu, Jean-Baptiste Delamo, le prix du livre inter. Je le rappelle au cas où certains seraient complètement passés à côté de cette information. Et on a voulu interroger un membre du jury de lecteurs qui vous a choisi. Elle s'appelle Patricia Reffel. Elle vient de Pau. Et voilà ce qu'elle nous a dit.
C'est un livre qui vient à l'intérieur de nous. On le lit physiquement, ce livre. On le lit avec nos 5 sens. Il déborde de tout ce que constitue le vivant. Il fait sortir ce livre tout ce que l'espèce humaine contient de difficultés à être un être humain, en fait, avec sens et avec harmonie, avec docilité dans un monde naturel, originel. Aujourd'hui, la résonance qu'il a sur les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il nous place face à cet acharnement que nous avons tous à devoir employer pour nous nourrir, pour devenir, pour durer, avec sens, avec dignité. Et là, on voit à quel point c'est difficile, à quel point nous allons bien souvent dans ce monde contre nature, contre notre propre nature. On perd le contact avec nous et les autres. Pourquoi ? Parce que nous sommes tellement en train de résister, de tenir bon, comme disait Éluard, ce dur besoin de durer. On s'éloigne petit à petit. Et ça, c'est très douloureux. C'est douloureux à lire.
Alors, c'est très fort hein, ce que dit cette lectrice. Quand même, Jean-Baptiste Delmot, lorsqu'elle parle de notre acharnement à vivre, qu'est-ce qu'il y a de si difficile, de si éprouvant dans le simple fait d'être en vie ? Du coup, j'ai envie de vous poser la question. Hein, dans le simple fait de tenir debout, de tenir bon, comme le dit Patricia en reprenant les mots de Paul Éluard, pour vous ?
Je pense que c'est la difficulté, c'est celle du sens, en fait, de trouver un sens à nos existences, avec cette aspiration que l'on a tous, je crois, à la liberté. Une liberté qui est si difficile à trouver, un libre arbitre qui est tellement entravé. Et ces personnages-là que j'ai mis en scène, ils se débattent tous avec leur héritage, avec leurs aspirations secrètes, avec leurs désirs, et avec effectivement cette violence qui les écrase, qui les broie.
Comme si vivre, c'était une malédiction, somme toute.
Oui, en tout cas, c'est un combat. C'est un combat qu'ils essaient de mener chacun à leur niveau, tout en étant bien sûr aveuglés parce qu'ils sont prisonniers de ces existences, de ces vies minuscules, pour faire un petit clin d'œil à
Pierre Michon.
Et ce que dit cette lectrice m'a touché. J'ai eu le sentiment vraiment d'être compris par les lecteurs de ce jury-là. Et ils ont notamment compris que même si c'est un texte qui parle aussi de l'élevage et de notre rapport aux animaux, c'est avant tout un texte qui parle de notre humanité et de notre inhumanité.
Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Je me pose la question que vous inspire ce texte de la Genèse, que vous faites vôtre, hein, parce que vous le mettez dans la bouche d'un de vos personnages, la génitrice, au tout début du roman.
C'est comme une malédiction posée, et c'est une mythologie aussi qui pourrait être applicable à certains romans de Faulkner, par exemple. Je pense à Absalom, ces grandes fresques comme ça qui montrent ces hommes qui se débattent avec la terre, qui essaient de lui soutirer quelque chose et qui se détruisent en même temps dans cette ambition-là.
Et avec une culpabilité aussi toute judéo-chrétienne, puisque vous citez Faulkner aussi.
Bien sûr, il y a aussi se débattre avec cette culpabilité-là.
Elle vous habite, vous aussi ?
Ben, très étrangement, oui, alors que je viens d'une famille athée, voire anti-religieuse. J'ai le sentiment, moi aussi, de me débattre quand même avec ce poids culturel-là. Ouais.
En fait, à vous lire, Jean-Baptiste Delamo, on a le sentiment que pour les hommes et les animaux, l'enfer, c'est ici, maintenant et depuis toujours. Pour vous, l'enfer, il est où, aujourd'hui ?
Ben, je ne crois pas à une existence après la mort, donc que ce soit le paradis ou l'enfer, s'ils doivent exister quelque part, c'est ici et maintenant. Après, le monde étant ce qu'il est, je crois effectivement qu'on se débat dans une forme d'antichambre de l'enfer, en tout cas, et qu'on doit tous aspirer, bien que je sois d'un tempérament plutôt pessimiste, je me dis qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que celui de l'engagement et d'une forme d'optimisme contraint, en fait, pour essayer de faire bouger les lignes et changer les choses.
La littérature se niche dans cet optimisme contraint ?
Je crois pas. Je pense pas que la littérature ait vocation à nous faire sentir mieux ou à nous ou à embellir le monde tel qu'il est. Je crois qu'elle a plutôt pour objet de dévoiler le monde, de déporter notre regard. Et en cela, elle peut être aussi une littérature du désespoir, de de l'ombre, de l'obscurité, de la subversion. En tout cas, c'est dans, quand elle s'aventure dans ces zones-là qu'elle me touche, moi, personnellement.
Celle qui est en désespoir dans cette émission, mais également en quête de sens, c'est évidemment la culture et son actualité aride, polluée et infertile. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 12 juin ?
Annecy, Annecy, c'est le plus beau des festivals. Annecy.
Savoie, comme un lundi au Festival d'Annecy, la 41e édition du rendez-vous international du film d'animation débute aujourd'hui dans la cité savoyarde. Au programme, 217 œuvres en compétition, une expo Éluard, un focus érotique et une mise à l'honneur de la Chine. Seule ombre au tableau, l'Empire du Milieu a fait pression pour que deux films soient retirés du programme officiel et ça s'appelle de la censure. Dur.
Have you ever felt like nobody would care? Have you ever felt forgotten? In the middle of going live on air.
Il a chanté, il a dansé, il a joué. Kevin Spacey a enflammé cette nuit la scène des Tony Awards, cérémonie qu'il animait et qui récompense chaque année le meilleur de la saison de Broadway. La soirée s'est soldée par le sacre de Dear Evan Hansen de Benj Pasek et Justin Paul. L'œuvre sur les troubles adolescents est repartie avec 6 récompenses, dont celle de la meilleure comédie musicale, Impériale.
Je suis Camille Claudel, et si vous l'ignorez, je saurais vous l'apprendre.
La valse, petite sculpture de bronze de 46,7 cm de haut réalisée par Camille Claudel, a été adjugée hier pour 1,18 million d'euros à la petite nièce de l'artiste. C'est un record mondial pour une œuvre de cette taille. Lors de la même vente, un Minotaure de Rodin a été vendu 73 000 euros seulement dans ta face, Auguste.
Emergency, Batman speaking.
Batman raccroche la cape. L'acteur américain Adam West, qui joua le premier Batman dans les années 60, c'était un vendredi, il avait 88 ans. Malgré des centaines de rôles à la télé et 60 ans de carrière, West restera l'inoubliable justicier masqué qu'il incarnera pendant 2 ans avec beaucoup d'humour et un sens du kitsch irrésistible. R.I.P. Mr. West. Jean-Baptiste Delamo, invité de Boomerang ce matin pour son 4e roman, Règne animal, récompensé, on le disait, par un jury d'auditeurs de France Inter. Un roman qui n'est pas sans lien avec vos précédents. Je pense à Une éducation libertine en particulier, mais aussi au sel et à Pornographia, notamment dans la façon que vous avez de décrire le corps. Et là, je pose vraiment la question à l'écrivain, c'est quoi un corps pour vous ?
Un corps, c'est ce qui nous réunit tous, puisque a priori, nous en avons tous un. C'est un vaisseau. Avec lequel nous traversons la vie, et c'est un vaisseau qui peu à peu s'abîme, qui change, qui n'est jamais le même, et je pense que c'est un matériau extraordinaire pour l'écriture. Moi, je ne suis pas un intellectuel, je n'ai pas grandi au contact de la grande littérature ou de la philosophie, et finalement, mon rapport au monde, il s'est construit par le corps, par les sensations. Et aujourd'hui, je pense que c'est mon médium, en fait, dans l'écriture.
Oui.
Oui.
Et c'est assez fascinant, hein, parce que vous en faites un élément comme un autre du monde vivant. Vous le placez jamais au-dessus des animaux, par exemple. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de suprématie. Est-ce que c'est une façon aussi de le désacraliser ?
C'est bien sûr une façon de le désacraliser, et en même temps, c'est une façon de réunifier le corps aussi, que ce soit le corps non humain, enfin animal humain ou animal non humain. Et ça, c'était un parti pris qui s'est rapidement imposé lorsque j'ai commencé à décrire ces humains et ces animaux, de choisir un regard extérieur, de ne pas pénétrer dans l'intériorité de ces personnages.
Et ça donne à votre littérature une dimension sinon blasphématoire, du moins transgressive, ce détail, cette description du corps. En quoi écrire pour vous, c'est toujours un acte de transgression?
Ah oui, je pense qu'il faut que la littérature, ça doit être un acte de transgression et de subversion, et que ça passe d'abord par la remise en question systématique à chaque livre de ce que l'on croit être acquis, et de toujours essayer de s'aventurer plus loin. Et pour ça, je m'autorise à travailler bien sûr avec mes obsessions, avec mes fantasmes, avec mon imaginaire, en cherchant toujours un rapport de frontalité, d'honnêteté.
Et sans limite, ces corps qui jouissent, qui défèquent, qui s'accouplent, qui mangent, qui souffrent, qui se décomposent aussi. Est-ce que votre objectif dans l'écriture, c'est aussi justement de parler au corps du lecteur ?
Oui, bien sûr, j'ai envie d'engager le lecteur dans une expérience qui soit une expérience physique, émotionnelle et
quitte à le déranger,
bien sûr,
au sens propre. Hein.
Mais bien sûr, et je crois qu'un livre, en tout cas moi j'ai été touché par des livres qui m'ont bouleversé, qui m'ont dérangé, qui m'ont mis mal à l'aise, que j'ai dû reposer, auxquels je suis revenu. C'est cette littérature-là que j'aspire à écrire. Et puis il y a une beauté quand même aussi dans la simplicité finalement de ces corps, dans ce grand mouvement organique. Par exemple, quand je décris ces corps qui retournent à la Terre, qui se décomposent, qui reviennent à une forme de cosmogonie aussi, pour moi il y a quelque chose de très beau, à la fois de très futile, de très éphémère et de très poétique.
Qu'est-ce qui vous prend aux tripes, vous, dans la vie, Jean-Baptiste Delamo ?
Eh bien, je me dis que la littérature est probablement ce qui me prend le plus aux tripes, parce que c'est une manière pour moi, je crois, d'habiter plusieurs corps, ou d'avoir le sentiment de vivre plusieurs vies dans un même instant. Et ça, c'est quelque chose, une recherche d'intensité, en fait.
Je vous l'avoue, sans farce, c'est la littérature aussi. Puis Bob Dylan, qui chantait en 1979 ce si beau « Man gave name to all the animals », un Dylan qu'on aime ou qu'on déteste. Inutile de vous dire que je suis de ceux qui l'aiment. Vous êtes sur France Inter avec Jean-Baptiste Delamo. Vous écoutez vos mots.
Long time ago, he saw an animal that liked to growl. Big furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hair. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I call it a cow. Man gave names to all the animals in the beginning. In the beginning, man gave names to all the animals in the beginning. Long time ago, he saw an animal that liked to snort. Horns on his head and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. Oh, I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals in the beginning. In the beginning, man gave names to all the animals in the beginning. Long time ago, he saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Bon, quand on l'a comme ça, assis bien sagement à côté de soi, ce sont pas vraiment des noms d'oiseaux ou d'animaux qui vous viennent à l'esprit. Quoique, on est quelque part entre le moineau et le chat de gouttière, un mélange entre la fragilité mélodieuse, vous savez, de l'oiseau et l'agilité facétieuse du félin. Un félin qui ne mange pas d'animaux. Figurez-vous, de grands yeux bleus, un anneau à l'oreille, des bracelets au poignet, quelque part entre l'enfant sage et le loup-bar. Jean-Baptiste Delamo, invité de Boomerang ce matin pour Règne Animal, un livre dans lequel vous nous faites traverser près d'un siècle de la vie d'une lignée d'éleveurs porcins. Dans le Gers, et j'aimerais que vous nous lisiez, si vous le voulez bien, la toute première page de votre roman.
Des premiers soirs du printemps aux dernières veillées de l'automne, il s'assied sur le petit banc de bois clouté et vermoulu, à l'assise ployée, sous la fenêtre dont le cadre détache dans la nuit, et sur la façade de pierre, un petit théâtre d'ombre. À l'intérieur, sur la table en chêne massif, une lampe à huile halète et l'éternel feu de cheminée projettent sur les murs couverts de salpêtre la silhouette affairée de l'épouse, l'élance brusquement vers les solives ou la brise sur un angle. Et cette lumière jaune, hésitante, gonfle la grande pièce puis crève l'obscurité de la cour, laissant le père contourné, immobile et sombre, dans un semblant de contre-jour. Quelle que soit la saison, il attend la nuit sur le banc de bois, ce même banc de bois sur lequel il a vu son père prendre place avant lui et dont les pieds moussus et rompus par les ans sont à présent affaissés. Lorsqu'il y est assis, ses genoux remontent au quart de son ventre et il peine à s'en relever. Mais il n'a pourtant jamais envisagé de le remplacer, quand bien même n'en subsisterait qu'une planche sur le sol. Il estime que les choses doivent rester telles qu'il les a connues, le plus longtemps possible, telles que d'autres avant lui ont estimé bon qu'elles soient, ou telles que l'usage en a fait ce qu'elles sont.
Qu'est-ce qui se joue, pour vous, Jean-Baptiste Alamo, dans la première page d'un roman? Je vous pose la question, est-ce que le roman interroge aussi ce que c'est que de raconter une grande histoire?
Alors, je suis moins attentif à une phrase d'accroche. On dit souvent que c'est la première phrase d'un roman qui doit nous emporter, qu'à planter immédiatement un univers. Et des images, surtout imposer des images. Moi, j'écris, en fait, j'appelle ça des images mentales, mais oui, ce sont des images imaginaires, fantasmagoriques, que j'essaie de transmettre le plus justement possible.
Alors, précisément, quand vous voyez cet homme assis sur un banc, vous voyez quoi?
Je vois l'origine d'un mythe, puisque j'avais présenté à l'esprit l'idée que cet homme-là était quelque part le fondateur d'une lignée, et que c'est par lui que tout commençait. Il y avait quelque chose de cet homme avachi, comme ça, presque déjà absorbé par la terre, en fait. Et ses lumières aussi, ses bougies, ses ombres sur les murs. Voilà, il me semblait que dès le départ, je pouvais entraîner le lecteur dans cette petite ferme du début du XXe siècle.
C'est comme si la littérature, à vous entendre, était un exercice du regard, d'abord. Un exercice qui consiste à sonder l'obscurité, les recoins d'ombre. Non?
Oui, je crois. D'ailleurs, je suis passionné de photographie. Alors, malheureusement, je suis piètre photographe, ou en tout cas, je n'ai pas une vie qui se prête à la photographie. C'est un de mes regrets. Mais je me nourris beaucoup de photos, de peintures, et j'aspire à aller vers une écriture qui ne serait plus qu'une écriture de la contemplation du regard. Un peu comme le fait Cormac McCarthy, d'ailleurs, chez qui on ne pénètre jamais l'intériorité des personnages. On est juste dans la description, et pourtant on arrive à suggérer quelque chose de ces humanités.
Comment on fait, Jean-Baptiste Alamo, pour faire rentrer la lumière, pour éclaircir les zones d'ombre?
Par contraste. Je travaille sur des univers qui sont assez sombres, et j'essaie tout de même par instant de faire jaillir quelque chose de lumineux, et bien souvent ça se passe dans le rapport avec la nature. Donc c'est une lumière physique, c'est une éclaircie, c'est un instant de bonheur saisi, arraché presque à la vie. Et c'est sur ces contrastes-là que j'essaie de montrer quelque chose de notre humanité.
When I put my hands on your body, on your flesh, I feel the history of that body. I feel the warmth and texture. I'm amazed at how perfectly your body fits to the curves of my hands. All these moments will be lost in time, like tears in rain.
Comme à tous mes invités, Jean-Baptiste Alamo, je vous ai demandé de terminer cette émission comme vous le souhaitiez. Vous avez choisi de nous parler d'un artiste, David Wojnarowicz, figure emblématique du New York des années 80, dont vous lirez bientôt un extrait, je crois, de son récit Au bord du gouffre au Théâtre des Carmélites à Toulouse. Pourquoi lui?
Mais quelle voix extraordinaire, quel grand écrivain. C'est une écriture pour moi qui est habitée par une poésie, par une puissance de vie et de mort, bien sûr, extraordinaire. David Wojnarowicz est mort du sida en 1992. Et dans ses textes, il raconte sa vie, son parcours, le New York Underground. Il raconte ses séropositifs et ses sidéens laissés pour compte par le gouvernement Reagan et par cette Amérique puritaine, homophobe, évangéliste. C'est un choc émotionnel et politique. et ça ne délaisse jamais la poésie. Et je trouve que Vojnarowicz, il a vraiment réussi à saisir quelque chose du mouvement de la vie, de ce passage éphémère et violent sur Terre.
Faut-il le lire aujourd'hui, Jean-Baptiste, pour que vous l'ayez choisi ?
Il faut le lire aujourd'hui parce que je trouve que dans ce contexte politique, dans l'Amérique de Trump, Vojnarowicz est d'une actualité frappante et nécessaire. Je pense que c'est pas pour rien d'ailleurs que le Whitney Museum American Art a prévu une immense rétrospective l'été prochain à New York.
Et puis ce dont parle le livre de Vojnarowicz, Au bord du gouffre, c'est aussi de rédemption et d'une souffrance sublimée par l'art.
Oui, c'est pour ça qu'il me touche. Ces textes sont aussi habités par le corps, par le thème du corps et par la manière dont l'art vient sublimer la vie et parfois la survie, puisque là on est vraiment dans les bas-fonds de New York.
C'est donc qu'il peut quelque chose alors, tout compte fait.
Mais bien sûr, il peut quelque chose. Il est nécessaire et on le sent. On sent dans son œuvre combien il a transcendé sa vie et son existence.
Merci infiniment, Jean-Baptiste Delamo, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Règne animal est publié chez Gallimard, et que dire sinon que c'est un incroyable tour de force. Je rappelle aussi que vous serez du 22 au 25 juin l'invité du prochain Marathon des mots de Toulouse, aux côtés d'une certaine Cécile Coulon notamment, qui vient de remporter le prix des libraires et qu'on embrasse parce qu'on est comme ça dans Boomerang. Tout de suite, celle qu'on ne manque jamais d'embrasser, pour le coup, Sonia De Villers. L'instant M, juste après ça. Je l'ignore sur France Inter et c'est l'heure de l'instant M avec Sonia De Villers qui m'entend, j'espère.
Mais oui, Augustin.
L'angoisse matinale du lundi.
J'adore, mais pourvu qu'elle dure.
Pourvu que ça dure. À demain.
Ciao.